Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, il est légalement aveugle, mais ça donne à la peinture pendant que c'est encore possible. Le peintre Maurice Larade s'inspire de la Louisiane pour traduire en couleur ses états d'âme.
C'est une condition qui s'empire à tous les jours, mais c'est doucement pas vite. Je m'adapte. Avec de la bonne lumière puis des lunettes à lire, je peux quand même peinturer. Je peux le faire tout de suite, donc je le fais.
La pièce de théâtre Passeport du dramaturge albertain d'origine congolaise Robert Suraki Watum prend la affiche en Alberta, un composé de récits migratoires.
Partir, ça a toujours été quelque chose de très difficile. Quitter son pays, quitter tout, quitter ses amis, quitter sa terre natale, c'est quelque chose de difficile. Mais on espère toujours qu'il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. C'est dans cet espoir-là qu'on quitte son pays. Parce qu'on ne quitte pas son pays comme ça. Même quand on quitte juste pour la liberté, on est en quête de la liberté, c'est parce qu'on espère à quelque chose.
Et notre radar nous fait faire une petite virée aux quatre coins du pays. On parle d'emploi à prendre en Nouvelle-Écosse.
Parfois, il y a des employeurs qui viennent vers moi et ils cherchent 200 personnes bilingues. J'ai pas 200 personnes bilingues. Comme j'en ai, si j'en ai 5-6 qui répondent à leurs critères au même moment, mais je suis chanceuse.
Et on s'arrête en Basse-Côte-Nord, rencontrer la première députée d'origine autochtone du Québec, Kateri Champagne-Jourdain. Ceci est plus encore à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, vous le devinez, il n'est pas évident d'être déclaré légalement aveugle et de passer le plus clair de son temps à peindre. Pourtant, c'est bien ce que fait Maurice Larade, pour qui la peinture est devenue un exutoire, une pure passion, cet art qui lui permet de composer avec son handicap visuel. Originaire de Chiticon-Cap-Breton, Maurice Larade habite depuis 20 ans à la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Son handicap visuel lui a permis de renouveler sa manière de peindre. C'est là, dit-il, qu'il s'ouvre au monde et qu'il peut laisser libre cours à son imagination. Il ne pense alors à rien d'autre qu'à son œuvre. Maurice Larade partage sa passion pour la peinture avec notre journaliste Daniel Aucoin en Nouvelle-Écosse.
Maurice Larade, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Maurice, comment est-ce que toi, t'es venu à t'intéresser à la peinture?
Quand j'avais à peu près 20 ans, je m'embassais avec la peinture à l'huile. J'avais peut-être fait une demi-douzaine, une dizaine de peintures, mais ça n'avait pas abouti à rien, puis j'avais abandonné ça. On avance une trentaine d'années, j'ai 50 ans. Puis, juste cet automne, j'ai fait un voyage en Louisiane. On avait visité la Nouvelle-Orléans, puis Lafayette. J'étais totalement inspiré par les artistes qui vendaient leur peinture sur le bord de la rue. J'en ai acheté une coupe. Je me pensais, c'est-tu quoi? C'est peut-être de quoi que je pourrais faire. J'arrivais chez nous. Tout de suite, j'ai été m'acheter de la peinture, des pinceaux, puis je m'ai mis à peinturer. Tu sais, j'ai grandi à Chiticon. Comme la Louisiane, on a une culture riche en musique. Vraiment, c'est ça ce que j'aime de peinturer. La plupart des thèmes de mes peintures, ça comprend un musicien, un joueur de guitare, une joueuse de violon, une jeune fille qui danse des quatre. So, je trouve que c'est un petit brin dans mon sang, puis c'est vraiment sur mon inspiration.
C'est intéressant. Maurice, aussi que tu as des problèmes visuels, tu es légalement aveugle. Est-ce que ça représente des défis pour réaliser des peintures?
Je pense pas que pour les gens de Chiticon qui me connaissent, c'est un gros secret. Je suis considéré légalement aveugle. C'est une condition appelée la rétinite pigmentaire ou retinitis pigmentosa. C'est une condition qui s'empire à tous les jours, mais c'est doucement pas vite. Donc, je m'adapte. Tout de suite, il me reste à peu près 5 à 10 % de vue. Avec de la bonne lumière puis des lunettes à lire, je peux quand même peinturer. Je sais pas pour comment longtemps que je vais pouvoir le faire, mais je peux le faire tout de suite, donc je le fais.
Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de faire des peintures? Pourquoi c'est important pour toi de produire des peintures?
Ben, premièrement, c'est un beau passe-temps, spécialement l'hiver. Il n'y a pas grand-chose à faire l'hiver, il fait noir à 5 heures, donc c'est... Ça me tient occupé. Mais ça peut être très enrichissant. Je veux dire, quand j'entends des commentaires des gens qui disent qu'ils adorent mes peintures, ça me surprend des fois parce que
You're your worst critic, puis je suis des fois pas trop content avec une peinture. Je pense que j'aurais pu faire mieux ici, j'aurais pu faire mieux là. Mais des gens me dire des commentaires, comment est-ce qu'ils les adorent. So, ça me donne la confiance à continuer. Une en particulier, madame avait contacté, a dit, cette peinture ici que tu viens de finir, là, elle me fait sentir quelque chose que je peux pas t'expliquer. Je la veux dans la maison, je peux-tu l'acheter? Ben, j'ai dit, ben oui, tu peux l'acheter, bien sûr. Mais entendre des choses comme ça, c'est très enrichissant, puis ça me donne la confiance de continuer. Là.
C'est quoi la peinture dont tu es le plus fier jusqu'à date parmi les peintures que tu as faites?
C'est cette peinture-là que la madame dont je te parlais, c'est un monsieur qui est assis sur un banc avec sa guitare dans un parc. Il est en train de regarder la rivière ou le lac devant lui, puis il y a une ville au loin. Il a un chapeau blanc. Ce chapeau blanc-là, c'est comme le centerpiece de l'œuvre. Tu sais, moi, toutes mes peintures sont différentes. C'est un background très foncé, mais il y a toujours de l'éclairage. Je trouve que c'est une lune, une lampe sur le bord de la rue, des lumières, des strades, qui fait des highlights. Ben, cette peinture-là, le chapeau, il ressort dans la peinture. Le background est très foncé, mais ce chapeau blanc ressort. Puis, moi aussi, comme la madame, j'étais très fier de cette peinture-là. Puis depuis ce temps-là, souvent mes peintures, je vais incorporer un chapeau blanc.
Qu'est-ce que tu souhaites que les gens qui voient tes peintures, qui admirent tes peintures, qu'est-ce que tu souhaites que ces gens-là vont retenir de tes œuvres?
Pour être très honnête, là, j'aimerais que les gens peuvent réaliser que quand même que j'ai des challenges pour ma vue, je surmonte mes limites. Mm-hmm. Puis je fais quelque chose qu'il y a des gens qui pensent que je devrais pas être capable de faire avec juste un 5-10% de vue. Donc, si je peux inspirer du monde à faire des choses qu'ils pensent peut-être qu'ils sont pas capables de faire ou surmonter les limites, ça, it's worth it.
Alors, Maurice Larade de Chétiquan, qui demeure à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, merci d'avoir pris le temps de parler avec nous de tes peintures.
Merci, Daniel.
Pour voir les œuvres de Maurice Larade sur le web, vous pouvez consulter la page Facebook de Art by Larade.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
La pièce de théâtre Passeport du dramaturge Robert Suraki-Watom prend l'affiche de l'Uni-Théâtre d'Edmonton. Monsieur Suraki-Watom est un dramaturge, auteur et poète albertain d'origine congolaise. Le concept de transculturalité est au cœur de son œuvre. Son plus récent livre, Sur les traces du passé, décrit le passionnant récit d'un homme qui a quitté le Congo et qui remonte le temps pour revisiter ses souvenirs, ses amours, sa famille, sa terre natale et le moment de son départ pour l'Europe. La pièce Passeport, quant à elle, nous présente les récits de 8 néo-Canadiens qui vivent à Edmonton. Dans Passeport, l'auteur témoigne de la difficulté du déracinement. Robert Suraki-Watom, en entrevue avec Éline Koulou à Edmonton.
Bonjour Robert.
Bonjour Éline.
En fait, Robert, d'où vient l'initiative de cette création collective?
En fait, Passeport est né de notre projet. Refuge, c'est une pièce de théâtre aussi que Steve Jodoin, qui est actuellement co-directeur général et directeur artistique de l'Uni Théâtre, m'avait demandé d'écrire et nous avions joué ici à l'Uni Théâtre. Moi-même, j'étais parmi les gens qui avaient joué comme acteur, oui. C'était une très très bonne pièce qui était très bien reçue. Et puis, Steve a souhaité que je puisse reprendre encore le projet, mais cette fois-ci, dans les prolongements de ce qu'on avait fait avant, avec des nouveaux acteurs. Oui. C'est pour ça que je ne joue pas dedans. Des nouvelles histoires, puisque Passeport, c'est vraiment des récits de vie.
Des récits de vie. Et ça sous-entend quoi, précisément?
En fait, c'est carrément le parcours de tous ceux qui... En fait, les Canadiens font des gens qui viennent d'ailleurs. Quasiment la majorité des gens, nous venons presque tous d'ailleurs, que ce soit le premier ministre. Même le premier ministre, quand on voit plus loin les ancêtres, les arrières, les grands-parents et tout ça, ils viennent d'ailleurs. Donc, chacun a son parcours. Et dans le passeport, ça sert à karma, les parcours de certaines personnes qui sont d'ici, ici à Edmonton, qui vont raconter leurs histoires, mais vraiment mises en scène. C'est vraiment théâtralisé, en fait.
Ces histoires des parcours, comment avez-vous pu les relier? Parce que chaque nouveau arrivant a son histoire. Comment avez-vous pu relier ces différents parcours afin d'en faire un seul récit?
Mais en fait, je suis d'abord, avant que je sois vraiment un écrivain, je suis un dramaturge.
Oh, oui.
C'est vraiment ce que j'ai toujours fait. J'essaie de créer des histoires et à partir des récits comme ça, c'était beaucoup plus facile pour moi de le faire. Surtout que ce sont des belles histoires et mises ensemble, et ça fait quelque chose de très intéressant. Et déjà, quand je raconte des gens qui m'en parlent, il y a beaucoup de gens qui sont déjà, qui ont même mis dans leur agenda déjà le février, le 22 février, donc pour la générale de la pièce. Donc je crois que c'est une excellente chose. C'est juste que j'ai réuni toutes ces histoires et je les ai mis à musique, en fait.
Et cette question du départ de sa ville natale, est-ce une histoire douloureuse ou réjouissante?
Partir, ça a toujours été quelque chose de très difficile. On aurait dû, d'ailleurs, intituler la pièce « Partir ».
Oui.
Mais, on a dit « passeport », mais partir, en fait, le problème, c'est partir, quitter son pays, quitter tout, quitter ses amis, quitter sa terre natale, quitter ses amis, ses parents. C'est quelque chose de difficile.
Oui.
Et souvent, on va vers l'inconnu. Et c'est là où nous essayons de récolter les expériences de chacun, de chacune. Et ce qui fait la belle histoire, en fait. Ce sont des histoires parfois tristes, mais un peu joyeuses aussi. Surtout que quand on quitte son pays, on va vers un autre monde. On espère trouver mieux. Et parfois, il y a la désillusion aussi et tout ça. Bon, ce sont des belles histoires, il faut le vivre. Mais je crois que chacun a sa petite part. Même moi-même, j'ai ma part dans la vie. C'est le parcours de l'immigrant. C'est ça, en fait, oui.
Je peux donc comprendre qu'après la douleur, il y a de la lumière au bout du tunnel.
En fait, même mes jeunes ambassadeurs me disent toujours, mais toi, tu dis toujours la lumière au bout du tunnel. Oui. Ça, c'est l'espoir. Mais ça peut être douloureux. Moi, je connais quelqu'un, par exemple, en Allemagne, qui a quitté son pays, que je rencontré là-bas. Il a fait une dizaine d'années, il n'avait pas raconté sa femme. Et lorsque sa femme est arrivée, lui, il est tombé malade, il est décédé. Ça fait finir mal. Oui. Mais, comme je l'ai dit, partir, c'est toujours un peu douloureux. Mais on espère toujours qu'il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. C'est dans cet espoir-là qu'on quitte son pays. Parce qu'on ne quitte pas son pays comme ça. Même quand on quitte juste pour la liberté, on est en quête de la liberté, c'est parce qu'on espère à quelque chose.
Oui.
Sauf que parfois, quand on arrive, on rencontre d'autres choses, d'autres peuples, d'autres personnes. Parfois, on est très mal accepté. Et ce sont des histoires comme ça qu'on va raconter dans la pièce, en fait, oui.
Et justement, combien d'origines on trouve dans la pièce? Combien d'acteurs?
Il y a 8 acteurs, acteurs et actrices. Il y a 6 différents pays, en fait, Il y a la RDC, il y a le Canada, puis il y a Chili, exactement, oui. Il y a Cameroun, il y a le Togo, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal. Ce sont des différentes histoires, mais qui se ressemblent quelque part, mais qui sont des histoires vraiment très, très différentes, des belles histoires, même tristes, mais elles sont belles. C'est un peu comme une chanson mélancolique, mais qui fait du bien parfois,
C'est vrai. Et la pièce, on va la vivre quand?
C'est pour bientôt, et ça sera le 22 février. Et puis après, ça sera du 22 au 26 février 2023,
Je suis sûr que ça va réconforter les personnes qui ont vécu le même parcours.
Je pense, oui. Parce que je me rappelle, quand on avait joué la première pièce Refuge, il y avait des gens dans la salle, noirs et blancs.
Oui.
Il y avait des gens en larmes. Il y a des gens qui sortaient et disaient, ça ne ressemblait pas à mon histoire, quelque part dessus comme ça, tout ça. Et je crois que chacun, quelque part, se retrouvera aussi.
Robert Sourakio-Atoum, metteur en scène, écrivain, dramaturge, poète. Merci de nous avoir visités. Et c'était avec Eline Koulou, journaliste pour IGL.
La pièce passement du dramaturge Robert Sourakio-Atoum prend l'affiche de l'Unithéâtre d'Edmonton en février 2023.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
La La députée provinciale québécoise Catherine Champagne-Jourdain est la première femme autochtone à être élue à l'Assemblée nationale du Québec. Elle porte les couleurs de la Coalition Avenir Québec depuis les élections de la fin de l'année dernière. Elle a du pain sur la planche, elle qui a été mandatée pour trouver des solutions durables à la pénurie de main-d'œuvre. Il faut savoir que la députée du comté de Duplessis sur la Côte-Nord au Québec a aussi été nommée ministre de l'Emploi. Un immense défi auquel se butent toutes les administrations provinciales et territoriales au pays. Catherine Champagne-Jourdain va donc se retrousser les manches en poursuivant l'opération main-d'œuvre lancée par son prédécesseur Jean Boulet. Jean Boulet qui avait, lors de la dernière campagne électorale, fait des déclarations incendiaires en disant, et je cite, « 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise ». Élisabeth Séguin, postée à Fermont dans le nord du Québec, a eu l'occasion de s'entretenir avec Catherine Champagne-Jourdain.
Il y a une initiative qui a été mise sur pied durant le dernier mandat par mon prédécesseur qui s'appelle l'opération main-d'œuvre. C'est une opération qui vise à apporter des solutions au niveau de la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques, mais aussi dans les secteurs essentiels. C'est extrêmement important pour soutenir nos milieux, hein, parce que oui, si on veut attirer des travailleurs dans nos régions, encore faut-il avoir de bons services. Donc, cette grande opération main-d'œuvre-là touche ces secteurs essentiels-là et touche aussi les secteurs stratégiques de notre économie. Donc, c'est une opération qui a été annoncée il y a un an, qui propose 79, dans le fond, mesures pour former, requalifier et intégrer sur le marché du travail les Québécois et aussi les nouveaux arrivants, dans le fond. Donc, on continue en ce sens-là. Les résultats commencent à se faire sentir, mais c'est une opération qui va nous permettre d'avoir des résultats aussi, de voir des résultats arriver sur plusieurs années, parce que des fois, former, ça peut prendre 3 ans dans différents secteurs. Mais on est en action et avec un bon plan. Quand je ne suis pas sur la Côte-Nord, parce que naturellement, je suis appelée à siéger à toutes les semaines, justement, quand on siège à Québec, je me rends compte que la Côte-Nord est souvent à Québec. Alors, on profite de ces occasions-là pour rencontrer nos représentants, nos maires, et ça a été le cas avec Monsieur Saint-Laurent. On a pris le temps de s'asseoir, de discuter de dossiers sur lesquels on devait faire une mise au point, notamment celui de l'habitation, qui est extrêmement important dans votre région à Fermont. Des fois, ça va au-delà de ça, hein. On se croise, on prend le même vol à l'aéroport, donc on continue nos discussions. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour notre région, mais aussi pour la ville de Fermont, entre autres.
Donc, 2023, ça va ressembler à quoi pour vous?
Je vais débuter une tournée des régions pour visiter. Vous savez, à l'emploi, on a 138 bureaux de Service Québec situés dans les 17 régions. Donc, c'est très important qu'on ait à la rencontre des gens sur le terrain pour continuer de s'imprégner du dossier de l'emploi, comprendre aussi les réalités de chacune de ces régions-là. C'est d'aller comprendre ça aussi sur le terrain et de rencontrer les équipes qui, à tous les jours, s'affairent à répondre, à soutenir les Québécois et les Québécoises dans leurs besoins.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
C'est l'heure d'ici notre périscope et de faire une virée en version condensée de l'actualité au pays. Tournons notre regard du côté des provinces atlantiques. Le YMCA de la Nouvelle-Écosse au travail organisait tout récemment à Halifax une foire de l'emploi destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous me direz que c'est peut-être un peu tôt pour recruter, et quelque part, vous avez raison, mais il se trouve que la province souffre d'une sérieuse pénurie de main-d'œuvre bilingue. Il y aurait peine à retenir ces jeunes travailleurs qui souvent quittent la province une fois leur scolarité terminée. Alors, autant leur mettre le grappin dessus avant qu'ils ne fassent leur choix, et surtout leur dire que les employeurs les attendent avec de bons boulots bien rémunérés au tournant de leur scolarité. Selon Nancy Hayes, gestionnaire des services en français au YMCA de la Nouvelle-Écosse au travail, Ce ne sont pas les opportunités qui manquent, mais les jeunes ne le savent tout simplement pas, semble-t-il. Adèle Gros-Perrin en parle avec Nancy Hayes, gestionnaire des services en français au YMCA Nouvelle-Écosse au travail.
On a beaucoup de difficultés à convaincre les jeunes bilingues à rester en Nouvelle-Écosse. La plupart sont intéressés à aller vivre une expérience au Québec, en Ontario, et puis ils ont comme l'impression que leur bilinguisme est plus valorisé à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse. Mais malheureusement, c'est que s'ils quittent la province, bien nous, ça nous prive de gens bilingues pour offrir plus de services en français. Donc, on voulait essayer de leur faire voir toutes les belles opportunités d'emploi qui existent pour eux, du secondaire, donc on s'adresse aux jeunes de 16 ans, mais on espère aussi réussir à attirer les jeunes du niveau collégial et du niveau universitaire. Donc, on parle de 16 ans jusqu'à 25 et pour certains postes comme la commission de la fonction publique, mais tu peux avoir 30, 35 ans et être encore considéré un jeune. Ce n'est pas les opportunités bilingues qui manquent. Moi, je travaille majoritairement avec les employeurs qui cherchent à combler des postes francophones ou bilingues. Et parfois, il y a des employeurs qui viennent vers moi puis ils cherchent 200 personnes bilingues. J'ai pas 200 personnes bilingues. Comme j'en ai, si j'en ai 5-6 qui répondent à leurs critères au même moment, mais je suis chanceuse. Dès que tu es bilingue, que tu as des diplômes particuliers, une expérience particulière, en général, tu as pas de difficulté à trouver du travail. Donc, je pense que c'est un manque d'information et c'est ça qu'on veut que la foire crée, qu'on leur fasse découvrir les opportunités maintenant et dans l'avenir, parce qu'on a des employeurs qui vont les prendre du secondaire ou du collégial au début de l'université, puis qui vont leur offrir un poste permanent à la fin.
Est-ce que au-delà de ce que vous pouvez contrôler, est-ce que c'est pas juste aussi les maritimes qui n'arrivent pas à retenir les jeunes?
Effectivement, c'est difficile, surtout depuis COVID. C'était dit très couramment, les nouveaux gradués ou les jeunes qui vont graduer disent que Halifax, c'est très cher, c'est difficile pour eux de pouvoir trouver du logement et un poste qui paye assez pour payer le logement et toutes les dépenses. Oui, malheureusement, ça, c'est un des soucis. Donc, dans les soucis de recrutement en ce moment, effectivement, il y a le logement. Il y a très peu de logements et les logements disponibles sont très dispendieux.
C'était Nancy Hayes, gestionnaire des services en français au YMCA de la Nouvelle-Écosse au travail. La 8e édition du palmarès des 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne de l'année 2022 vient de paraître. Le palmarès de Franco-Presse souligne le travail des personnes qui œuvrent souvent dans l'ombre à renforcer, à stimuler la francophonie canadienne. 5 franco-ontariens y sont nommés, dont Gisèle Lalonde, Michel Obomsawin, Martin Normand, Michel Picard et Jonathan David, mais aussi l'auteur, compositrice, interprète des Maritimes Lisa Leblanc, Lily Christ, la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, et Elisa Brosseau, mairesse de Bonnyville en Alberta. Elle est aussi présidente de l'Association bilingue des municipalités de l'Alberta. Pour elle, le bilinguisme est un atout qui permet à l'Alberta d'attirer les investisseurs et les travailleurs francophones, un avantage dont la province devrait tirer profit, selon Elisa Brosseau.
Pour moi, je fais l'ouvrage auprès des municipalités. Ici en Alberta, c'est pas vraiment surprenant qu'on a des municipalités qui sont vraiment bilingues. Pas juste francophones, mais anglais et français ensemble. Et c'est vraiment l'ouvrage que je fais partie d'une association. Je suis la présidente d'une association des municipalités bilingues ici en Alberta. Alors, vraiment, cette dernière année, c'était l'ouvrage de faire reconnaître au gouvernement provincial ainsi que le gouvernement fédéral que, oui, il y a du monde et les municipalités, des résidents ici en Alberta qui parlent le français. C'est vraiment le but la dernière année. On trouve que vraiment le bilinguisme a la force et puis peut apporter beaucoup de bénéfices aux municipalités si on regarde soit des investisseurs, le tourisme ou attraction des résidents à nos municipalités. Alors, Ça, c'est vraiment, quand on parle du développement économique, du côté du bilinguisme, c'est ça ce qu'on regarde. On veut que le gouvernement provincial d'Alberta nous reconnaisse officiellement à être bilingue. Quand je dis nous, je veux dire les municipalités. Au moment, nous ne sommes pas officiellement bilingues, alors ça, c'est un des gros défis de l'association. C'est de continuer à leur parler, leur engager, leur faire démontrer la force qu'on apporte comme association. C'est les exemples de ce qu'on fait pour les municipalités. C'est comme ça qu'on va le faire.
C'était Elisa Brosseau, mairesse de Bonnyville au micro, d'Eileen Koulou à Edmonton en Alberta.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI.
On vire maintenant vers l'ouest du pays. Vous savez, quand on jette un coup d'œil à la météo au pays, on se rend parfois compte, en fonction de notre situation géographique, qu'on ne s'en tire pas si mal que ça quand on se compare aux provinces des prairies qui vivent les rudesses de l'hiver souvent bien avant nous. Eh bien, bonne nouvelle pour les Albertains qui ont dû faire face à des températures de moins 40 Celsius au mois de décembre dernier. Ces coups de froid semblent pouvoir porter un coup fatal aux populations de dendroctones du pin, ces parasites qui affectionnent normalement les températures plus clémentes. À ce jour, plus de 2,4 millions d'hectares de forêts albertaines ont été affectés par la propagation du parasite, tuant presque tous les pins dans les régions les plus sévèrement touchées. Alors, ces populations de coléoptères albertains ont, grâce au froid, radicalement diminué. Les précisions de Vincent Lavoie à Plamondon, en Alberta.
Les dendroctones du pin, aussi connus en anglais comme des pine beetles, transportent des champignons qui leur permettent de pouvoir s'attaquer au pin et éventuellement les tuer en interrompant le flux de nutriments des racines jusqu'aux épines. Avec les périodes de froid intense connues à chaque hiver, les populations de ces parasites ont drastiquement baissé depuis leur sommet en 2019. Les températures glaciales de moins 40 degrés durant la nuit ont décimé la moitié de leur population. Le froid est la mesure naturelle la plus efficace pour lutter contre les dendroctones du pin. Comme autre mesure, le gouvernement mène une campagne agressive qui vise à couper les arbres qui hébergent les larves de l'insecte dans l'espoir de briser le cycle de reproduction. Il faut toutefois noter que les changements climatiques sont liés à la prolifération de ce parasite. Les hivers pourraient avoir des tendances de température à la hausse, ce qui ne permettrait pas de tuer les parasites par le froid. Parallèlement, les forêts entières ravagées sont des puits de carbone en moins pour lutter contre la pollution au carbone. Ici Vincent Lavoie pour IGL à Plamondon.
Voilà, c'est sur ces bonnes nouvelles que se conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes, Eileen Koulou, Daniel Aucoin, Adèle Gros-Perrin, Elisabeth Seguin et Vincent Lavoie. Notre coordonnateur national est Stéphane Bénard. Merci aux artistes qui nous offrent, comme d'habitude, si généreusement leur musique. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Merci à vous tous et toutes d'avoir été avec nous. Retrouvez tous nos reportages sur canada-info.ca. Restez à l'antenne de l'émission qui suit. À bientôt.
Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord, vous écoutez Point de vue.